Au cœur de la mode saison 3, épisode 3. Nous sortons de chez Rick Owens et de Chloé. Rick Owens, c'est le pyramidion doré au-dessus de l'obélisque de la place de la Concorde. Rick Owens, c'est les pavés de la place de la Concorde. Rick Owens, c'est l'arc de triomphe. Rick Owens, c'est le sommet ultime. C'est la guillotine aussi sur la place de la Concorde. C'est Rick Owens, c'est le plus fou, le plus violent, le plus génial, le plus sublime, le plus dingue. Il est au-dessus de la mêlée à un point qui fait peur. C'est-à-dire que même, tu vois les coupes, et t'es là, mais qui coupe comme ça aujourd'hui en fait? Les coupes sont folles, mais folles. Et en plus, il est un peu vicelard parce qu'il y a quelques robes qui passent où il laisse les coupes visibles, où on voit. Et du coup, on est complètement sur le cul, quoi, parce que c'est vraiment fou, le travail.
Et le défilé était chez lui.
Le défilé était chez lui encore. C'est-à-dire que ça a déjà eu lieu comme ça au mois de janvier. Il dit que c'est en réaction à l'actualité. Il dit, voilà, faire un grand défilé avec des grands effets de manches, des grandes fumées et tout ça, il est mal à l'aise de le faire en ce moment. Il est toujours très sensible à l'actualité, Rick Owens. Et là, il fait quelque chose chez lui. Donc, on est dans son espèce d'écrin brutaliste. Avec quelques parties qui sont 19e siècle, qui sont un peu des boiseries.
On est sur combien de mètres carrés à peu près?
On est sur vraiment énormément de mètres carrés. On est sur un très beau, comment ils disent, un très beau volume.
En loi Carrez.
Alors la loi Carrez, il n'y en a même pas là. C'était les anciens bureaux de François Mitterrand avant qu'il devienne président. Et ils ont aussi acheté tout le reste de l'immeuble. Donc il y a une espèce d'immeuble des années 50 qui est greffé à des bâtiments construits par Napoléon pour ses maréchaux, il me semble.
Je crois d'accord, on est sur un petit hôtel particulier en fait.
Pas vraiment, parce qu'il y a une partie un peu hôtel particulier. Et derrière, il y a carrément un immeuble. Il y a plusieurs étages d'un immeuble. Comme ça, tout en béton et tout ça, avec des œuvres de Mathieu. Je crois qu'en face de moi, il y avait une œuvre de Mathieu Barnet, et j'étais assis à côté de quelqu'un qui s'affalait contre le mur, et j'ai dû lui dire "No, this is not a wall." Il était là, si, it's a wall. Il pensait que je disais que c'était une cloison, et en fait, il se penchait sur une peinture murale, donc une œuvre d'art, ouais.
Oh, wow.
Ouais.
Le genre de truc que je pourrais faire.
On était dans le nid créatif de Rick Owens. On était dans le Tim Blanks m'a dit de Business of Fashion. Il m'a dit qu'on était dans le womb de Rick Owens. Donc vraiment dans un endroit de création délirante quoi. Et les vêtements sont extrêmement bizarres. Éventuellement, tu peux les voir comme extrêmement bizarres, mais aussi extrêmement réconfortants. C'est des vêtements qui serrent les femmes qui les portent, les personnes qui les portent. Il y avait des doudous, je sais pas ce que c'était. Enfin, c'est assez indescriptible. Il y a encore les bottes gonflables du mois de janvier. Et il y a des nouvelles bottes qu'il a décrit comme des bottes rhinocéros, des cornes de rhinocéros.
Démentes.
Démoniaques. Et qu'est-ce que tu as pensé des essayages?
C'est hyper intéressant parce que quand elles sont par terre, c'est un objet en soi.
Sculpture.
Voilà, une sculpture, c'est vraiment très très beau. Et après, quand on les voit marcher, mais ça devient. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est culte dès qu'on le voit, quoi. On ne peut pas l'oublier, en fait. Quand on voit des chaussures Rick Owens, on ne les oublie pas, en fait.
Il y a tout un discours sur la couverture de survie militaire. Il y a tout un discours, parce que c'est le premier matériau qu'il a utilisé quand il était jeune créateur, parce que c'était évidemment la chose la moins chère à disposition. Il y a aussi des vêtements dans comment on appelle ça, des pneus de vélo recyclés.
Oui, c'était ça. Il y a une jupe sirène qui est comme ça, c'est fou.
Ouais, et ça crée une démarche en travail hyper spectaculaire, hyper cérémoniale. La cérémonie n'est jamais loin dans les défilés de Rick Owens. Mais il y a aussi des robes en cachemire, mais folissimes. Enfin, c'était une beauté. Et à la fin, il y a comme un pastiche de robes du soir qui sont plus que des espèces de tubes, certains pailletés qui circulent sur le corps et un corps qui en dessous est complètement dénudé. Donc ça change des transparences que tout le monde fait. C'est comme s'il déconstruisait complètement la robe du soir, quoi. Enfin, c'était vraiment éblouissant, étourdissant. Tu comprends pas ce que tu vois. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Je suis sorti sur le cul. Et donc hyper difficile de passer derrière. Et qui passait derrière? Chloé qui revient avec Chemena Kamali, qui est une créatrice qui a déjà travaillé pour la maison, qui récemment travaillait chez Saint Laurent, avec un défilé tout beige dans une friche industrielle, mais avec une grande moquette très épaisse. Jerry Hall au premier rang, Pat Cleveland au premier rang, qui sont les deux mannequins mythiques de la maison qui ont vraiment construit à tout toutes deux avec Karl Lagerfeld l'image comme ça qu'on a de Chloé, d'une féminité comme ça, très virtuose, très sympathique et tout ça. Donc elles étaient au premier rang, elles racontaient leurs meilleurs souvenirs de la maison. Et c'était, le défilé était ça, une ode à ces femmes Chloé du passé, ces choses beiges, mousselines, légères et tout ça. Comment était l'ambiance en coulisses ?
Assez studieuse, parce que c'est vrai que c'est un des défilés les plus attendus de cette semaine, c'était celui-ci.
C'est la grande nouveauté.
Voilà, c'est la grande nouveauté et tout le monde avait un peu envie de revoir un beau Chloé. Et c'est vrai que c'est assez malin de se replonger dans les archives. Et en backstage, on pouvait voir sur les moodboards les photos d'archives de l'époque de Karl Lagerfeld chez Chloé. Et on retrouvait vraiment des archives telles quelles dans la collection. Donc, par exemple, il y a une ceinture Chloé qui écrit Chloé. Ça, c'est une archive vraiment qui a défilé.
C'est vraiment une redite exacte de l'archive.
Exact, ouais, ouais.
Donc,
c'est hyper assumé et c'est assez malin de, quand on arrive dans une maison, de se plonger dans les archives et de choisir surtout la bonne époque. Et ça, c'est quand même une des très très bonnes époques de Chloé. C'est la grande décennie de Karl dans la maison. Ambiance très studieuse et on sent une bienveillance de la créatrice envers les mannequins. Elle allait voir chaque mannequin et elle a rechecké chaque tenue, chaque silhouette. Grande émotion au moment du salut. Parce qu'il y a son enfant qui lui a sauté dans les bras, c'est
mais
ça ?
Mais tellement mignon, mais t'as pas idée. C'est-à-dire qu'il a vu sa mère. Je pense qu'il a 3 ans. L'enfant doit avoir 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Il voit sa mère saluer et il court comme un malade vers elle, en plein milieu du podium. Et là, le réflexe tout de suite, parce que c'était pas prévu, mais je pense pas qu'elle... Elle veut que ça se passe et donc elle le ramène tout de suite à son père. Et c'était d'une mignonceté et je pense que la moitié de la salle pleurait. Tellement c'était mignon.
Ce qui est marrant, donc, c'est qu'après ce moment-là, backstage, son enfant lui a dit « Ah, je comprends pourquoi, en fait, tu travailles super tard tous les soirs. »
Donc il a plus que 3 ans. Alors,
Non, il est vraiment tout petit. Je pense qu'il a, il a 5 ans, quelque chose comme ça. Mais il lui a dit ça, donc c'est assez mignon.
Tellement mignon, tellement mignon. Le plus beau salut de la saison, c'est celui-là, ça c'est sûr. Personne n'arrivera à faire plus émouvant que ça. Et là, on file chez Off-White, au Carrousel du Louvre. Nous sortons de...
Schiaparelli.
Et Schiaparelli a fait du...
Prêt-à-porter.
Schiaparelli. Donc c'est... Mettez des guillemets...
Concept.
Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a un hélico qui livre des guillemets en or, des gros guillemets en or, au mot prêt-à-porter. Et c'est drôle parce que Daniel Roseberry nous a assuré en coulisses... Ah non, 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 les gars... C'est pas de la couture, c'est du prêt-à-porter. T'es là, ok. Grosse foule devant le lieu du défilé, des hurlements pas possibles. Et alors, mon truc préféré, c'est il y avait quelques dames qui venaient et qui se posent devant les paparazzis en espérant une tornade de flash. C'est tellement mignon.
Quand on est habillé en Schiaparelli, on mérite un peu des flashs quand même. C'est vraiment un vestiaire de pop star. C'est un vestiaire qu'on remarque. Et c'est assez cool à filmer backstage parce qu'on peut s'approcher, on peut zoomer et voir les détails. Et chaque détail dans les vêtements Schiaparelli, c'est un détournement, une réalisation surréaliste. C'est-à-dire que chaque bouton, c'est tout de suite un événement. C'est pas juste un bouton, c'est un bouton avec une forme d'œil ou de bouche. Le fermoir du sac est un nez, le fermoir du sac est une bouche, le fermoir du sac est une oreille. Donc c'est vraiment assez marrant à filmer, c'est presque un jeu en fait.
L'excellente, la sublime, la géniale, la sirène Aya Nakamura avait un œil sur l'oreille, ça m'éclatait. elle avait l'œil à l'oreille, c'était pas un bouche à oreille, c'était un œil à oreille.
Et ça lui va très très bien ce Schiaparelli.
Débarqué en Marilyn, donc chevelure blonde vénitienne comme ça, une robe noire velours frappé faite sur mesure de chez sur mesure. Et c'est vrai qu'elle a déchaîné, elle a pris plaisir d'ailleurs, je pense, à déchaîner la tornade de flash à l'extérieur. Les gens qui ont attendu 1h30 dehors, franchement, ils n'ont pas perdu leur temps. Et elle était trop en forme, trop contente. Et qu'a-t-elle dit à Daniel Roseberry à la fin du défilé ?
Elle lui a avoué que c'était sa marque préférée.
C'est pas un petit compliment,
voilà,
de la part de notre impératrice nationale.
Oui, c'est vraiment la célébrité qu'on aime voir à tous les premiers rangs. Là, il y a une période Rihanna, et là, maintenant, on est dans l'ère Aya Nakamura. Là, on est tous ravis à chaque fois de voir Aya Nakamura arriver au défilé. On sait, c'est l'événement de la journée quand elle est là.
Alors, elle m'a dit, attends, j'en fais combien d'habitude ? Je dis, bah, je sais pas, deux ou trois. Eh ouais, donc on l'a vu deux fois là déjà. Donc ouais. Qui aura la troisième? Y aura-t-il une troisième fois?
Les ouais.
Les ouais, peut-être chez les ouais. Ouais.
Peut-être chez les ouais. On dit plus l'OEV.
Ah bah non.
Si vous avez quoi, suivi, on ne dit plus l'OEV.
C'est quoi l'OEV?
Je ne sais pas, moi je connais les ouais.
Les ouais.
Ouais, j'adore les ouais. Ouais.
Moi aussi. Et parce que c'est la façon dont Aya prononce le nom de cette marque espagnole et elle a bien raison. Voilà, moi je prononce Canel depuis des années. Et donc Clara Luciani qui arrive sublimée dans un espèce de manteau caréné Schiaparelli, Anna Wintour hyper jouasse et la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui disait qu'elle appréciait beaucoup la mode italienne.
Ça c'est rarissime, hein, les apparitions des ministres au premier rang des défilés, ça arrive quasiment jamais. Hein.
Ça n'arrive jamais.
Jamais, non.
Que si t'es mort. C'est-à-dire que Albert Elbaz a eu Brigitte Macron, mais à sa mort. Voilà. Et des ministres, non? Quand est-ce qu'on a vu
Les premières dames, ça a pu arriver, mais les ministres en fonction, c'est rarissime.
Non, mais première dame, depuis quand la dernière fois qu'il y a eu une première dame à un défilé? Oui, il y a une.
Carla Bruni, c'est une ancienne première dame. Bernadette Chirac a fait certains défilés Chanel.
Oui, beaucoup Chanel couture.
Donc voilà, mais ministres en fonction, c'est vrai que c'est rarissime.
Et elle allait parler à Karl Lagerfeld à la fin du défilé, et j'éloignais ma caméra tellement elle me faisait peur.
Et on sentait backstage que Rachida Dati frétillait à côté de Aya Nakamura. On sentait qu'elle avait très très envie de faire une photo avec elle.
Elle est humaine. Elle est comme nous.
On veut tous une photo avec Aya Nakamura.
Elle est ministre de la Culture, mais elle est comme nous.
Et c'est le pouvoir des très grandes célébrités. Elles sont irrésistibles et tout le monde, même les ministres, veulent des photos avec elle.
Ah ouais, irrésistible. Alors, la collection naît de la haute couture. Daniel Rosemary dit à la fois « Je voulais m'éloigner de la haute couture parce que c'est une image de célébrité inatteignable et je veux une mode plus quotidienne. » À nouveau, faites entrer les guillemets en or.
Un quotidien Schiaparelli, c'est voilà. Un concept.
Voilà. C'est-à-dire que c'est une femme qui a un grille-pain en or.
Son non. Chapeau, c'est une chaussure.
Voilà.
Il y avait la fameuse chaussure retournée, mais en bonnet, là, en version bonnet dans la collection.
Tout à fait. Le chapeau iconique d'Elsa Schiaparelli, version maille, comme ça, hyper jolie. Et on retrouve vraiment les codes de Schiaparelli. Il y a le trou de serrure qui se pose sur des plexus solaires. Et il y a le fameux tailleur squelette de 1933, on va dire, je ne sais plus, et qui se retrouve en broderie, enfin, de différentes façons, et sur des doudounes. Moi, mon truc préféré du défilé, je crois que c'est les doudounes. Il y a vraiment des doudounes très sculptures, comme ça, qui vous font des épaules pas possibles. Et les premiers passages du défilé sont inspirés du look le plus, entre guillemets, discret de la dernière haute couture de janvier, qui était un costume avec un crayon qui fermait le
col de la chemise blanche.
Tout à fait. Et Daniel Rosemary dit, c'est marrant parce que quand j'ai fait des récits avec les clientes et des journalistes et des sortes de femmes, la tenue qui faisait le plus réagir ces femmes était systématiquement ce costume avec ce crayon dans la chemise. Et du coup, tous les premiers passages sont des costumes entre guillemets masculins d'une femme qui aurait, je cite, tué son mari et qui lui aurait piqué ses costards.
Ouais, et oui.
Elle emprunte pas. Elle te tue pour te prendre ton costard.
Oui, visiblement, elle est un peu psycho parce que sa cravate, c'est une natte de cheveux. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. C'est vrai qu'elle est un peu border, cette femme Schiaparelli.
une natte tressée de cheveux en cravate. Et j'étais là, mais tellement bonne idée, pourquoi je ne l'ai pas encore vue? On l'avait déjà vue, cette idée-là?
Non, toute première
ça
fois.
Ça ne disait rien. Et c'était trop, voilà. Les bottes Santiago du défilé couture sont disponibles en prêt-à-porter. C'est une très bonne nouvelle pour les dames qui avaient déjà dépensé 200 000 pour l'acheter à la couture. Et voilà, donc moi, ça m'a mis en joie. Ce Janet Jackson là.
Voilà, très bon choix de bande son. C'est-à-dire
oui,
que ça commençait un défilé avec un tube de Janet Jackson, tout de suite ça réveille la salle. En fin de journée, tout le monde en a besoin.
Bah oui, c'est ça. Parce que hier, il y avait des extraits d'une pièce de théâtre avec Madeleine Renaud chez Balmain. Donc une voix de dame plutôt âgée qui parle de vêtements qu'elle a sortis de l'armoire. Donc ça foutait plus la chiale. Ça indiquait la case chiale. Là, on indiquait la case robe à danser, on s'amuse, on va vite. Le défilé allait à 200 à l'heure. Ça, j'ai ressenti 4 minutes. Tu vois, c'était personne. On a dissocié. Il y a eu un défilé à la couture où les gens dissociaient tellement. Et à un moment donné, on a tous cru que c'était fini, on a tous fait et ça a continué en fait. Ça reprenait, on n'était qu'à la moitié. Il y a des choses difficiles dans la vie, c'est les défilés trop longs. Bon bah voilà.
Une journée de fête.
Bisous les hardcore.
Merci d'avoir écouté.
On espère que ce sport se passe bien, que ces petits pois s'écossent bien. Merci Julien Acosta.
Merci Loïc Prigent.
Merci Clément Duché à la prise de son. Merci Najim Moubarek au montage son. Des bisous joues. Et allez sur fashionmoodboard.com qui est notre méga super site avec des milliards de photos, de vidéos, d'infos, d'articles hyper longs. N'hésitez pas. Bisous joues.